les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on vous emmène en Tunisie, en Haïti, entre la France et les États-Unis, mais aussi en Suisse pour une séquence inattendue. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est l'un des romans dont on parle le plus en ce moment. Philippe Jaénada raconte un nouveau fait divers sur plus de 700 pages. Il est en lice pour le prix Goncourt. Il a choisi un lieu inattendu pour en parler et il sera question de sa peur de l'eau au bord du lac Léman en Suisse. Catherine Cusset revient avec un nouveau livre qui fait aussi l'événement en librairie. Une histoire de famille qui balaye notre époque et ses travers. Une réflexion étonnante sur le bonheur. Elle est en plateau avec nous. Et puis nous irons en Tunisie pour le congrès mondial des écrivains de langue française dont nous vous parlions la semaine dernière. On rejoindra sur place Yamène Manaï pour vous raconter ce qu'il s'y passe et aussi l'auteur haïtienne Emily Prophète pour son nouveau roman sur la vie dans les cités de Port-au-Prince. Et les libraires sont bien sûr avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. Au Canada, on retrouve Mike Viennot de la librairie Monet à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour, ça va bien?
Ça va et vous?
Ah, ça va très bien ici.
Très bien. Il fait beau en plus en ce moment à Montréal, paraît-il.
Oui, il fait beau, il y a une apparence d'été là.
OK. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine en Belgique. Vous représentez donc la Belgique. C'est un peu la rentrée pour vous, hein? Première participation? Cette saison.
Oui, tout à fait. C'est la rentrée scolaire aussi à la librairie. Donc voilà, c'est toute
agité.
La rentrée.
C'est agité.
Voici
Sophie Todescato qui représente la France cette semaine. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes. La rentrée, ça y est, c'est bouclé pour vous.
Oui. C'est qu'un mauvais souvenir, on va dire.
Un mauvais souvenir. En Suisse, c'est Dominique Bressoux qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry et on vous retrouvera dans la librairie francophone version télé. La saison commence dès lundi soir sur RTS2 et ici RTV au Canada. Mercredi soir sur RTBF la 3 et dimanche 3 octobre à midi sur TV5 Monde. On commence avec une anecdote de libraire. Dominique, comme on fait à la télé d'ailleurs, mais cette fois c'est pas vous. Je crois que c'est Déborah qui nous racontera une histoire et à la radio c'est vous. Vous suivez?
Oui.
Allez, c'est maintenant.
Oui, alors moi je ne sais pas si les autres libraires sont comme moi, mais j'ai une fâcheuse tendance à dire régulièrement des petites phrases un peu stupides. Mmh. Typiquement, quand quelqu'un est inquiet de savoir si je peux commander rapidement l'énorme pavé qu'il voudrait, je dis régulièrement, je peux en avoir 100 exemplaires le surlendemain. Et vous devinez la suite, j'ai une fois joint le geste à la parole sans m'en rendre compte, et j'ai vu arriver 4 énormes cartons d'énormes pavés après cette commande.
Et pourquoi vous faites ça? C'est pour faire une blague.
Comme ça. Ouais, c'est pour faire des petites blagues, mais je fais plus maintenant.
Et du coup, vous en commandez 100 sans vous en rendre compte?
Bah ouais, parce que des fois, je suis vraiment un peu distraite.
Ah ouais. Ça va mieux, Dominique, hein? Vous êtes différente, hein, comme on dit. Bon, allez voir Dominique, elle a plein de livres à vous vendre. Merci pour cette histoire, à tout à l'heure. Voici Catherine Cusset sur la BO de son roman, une musique qui va forcément vous plonger dans les souvenirs.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Et bonjour Catherine Cusset.
Bonjour Emmanuel.
Superbe chanson, hein, qui donne le moral, tout va bien. sur cette musique de Francis Cabrel, donc que vous citez au début de votre livre, La définition du bonheur, paru chez Gallimard. Une histoire de famille avec deux sœurs dont vous racontez la vie en parallèle. Il y a Clarisse, 16 ans, qui part en vacances du côté de Hyères dans un club tenu par sa marraine. Décrivez-nous cet endroit, tiens Catherine, l'endroit où elle va.
C'est un club de vacances composé de petits bungalows où Clarisse se retrouve toute seule à 16 ans puisque sa mère ne peut pas l'accompagner.
Ouais.
Et où elle tombe amoureuse d'un garçon de 18 ans, comme ça nous arrive très souvent quand on est en vacances adolescent. Et
oui.
À un moment, elle est sur sa mobylette et il roule vers un nightclub. Elle sent la brise qui caresse ses épaules et elle pense que c'est ça la définition du bonheur. Et puis évidemment, ça précède une chose très difficile qui lui arrive juste après.
Alors le beau Samuel, hein, c'est ça, il est un peu plus âgé qu'elle. Mmh. Elle en est amoureuse très vite, c'est un amour de vacances.
Oui, bien sûr.
Mais malheureusement, ça va un peu trop loin.
Ben, c'est plus qu'un peu trop loin. Hein. Elle fait confiance à un garçon qui l'a trahi.
Ben, vous pouvez y aller, hein, parce que c'est le début du livre, donc on ne dévoile pas grand-chose.
Oui, donc elle est violée par ce garçon et ses cousins.
Par ses deux cousins, ils sont trois sur elle.
Oui.
Dans le noir, elle arrive dans la chambre et voilà, c'est ça qui lui arrive.
Mais le plus important, c'est la honte, c'est ce sentiment de honte terrible qui fait qu'elle n'en parle pas pendant 20 ans.
Et alors, elle va confier quand même ce viol, bien plus tard, à ses parents. Et leur réaction est incroyable. Son père lui demandera s'ils étaient beaux au moins. Et je cite, « Je suppose que ça doit être plaisant, c'est le grand fantasme des femmes. »
Enfin, c'est une réaction absolument inouïe et qui est effectivement ce déni, c'est presque comme un deuxième viol. C'est là d'ailleurs, on m'a dit que mon roman était très contemporain parce qu'il reprenait des thèmes, et c'est vrai que pour Clarisse, des thèmes d'époque, le mouvement MeToo a été, pour ce personnage-là, a été très important parce qu'il a libéré la parole et qu'il a permis de prendre conscience de sa honte. Et du fait qu'elle n'était pas la seule, tout simplement.
Alors elle va tenter de se remettre de cette histoire. Par les voyages, les aventures aussi, quelques années plus tard, elle rencontre un beau Belge qui s'appelle Hendrik, avec qui la relation sera intense mais compliquée.
C'est quand même Clarisse, sans doute parce qu'elle a vécu ce viol à 16 ans. C'est une fille qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la mort. Et à 20 ans, au lieu de rester en fac, elle part voyager toute seule en Asie du Sud-Est. Et c'est de ce voyage, en effet, qu'elle va ramener ce garçon, avec qui elle ne s'entend pas très bien. On pourrait se dire, mais pourquoi elle l'épouse enfin. Et quelque part, elle a choisi quelqu'un qui n'avait pas de respect pour elle. Hein. C'est vraiment ce qui définit Clarisse. Mais elle justifie ce choix en se disant qu'au moins, ce Belge est quelqu'un de fiable. Et la fiabilité lui paraît la valeur la plus importante dans un couple.
Et oui, parce que
son père a abandonné sa mère quand elle avait 2 ans. Et elle se dit, voilà, celui-là, au moins, il s'engage, il ne me quittera pas. Il y a chez elle vraiment une structure de l'abandon. Et c'est ça qui m'intéresse.
Oui, et pourtant, c'est un livre sur le bonheur, Catherine. C'est quoi le bonheur pour vous?
Mais c'est ce que je vous disais, c'est sans doute le bonheur, ça se vit dans le moment présent. Donc il y a une intensité du moment présent. Et c'est souvent aussi ça qui nous échappe, parce que j'ai créé en contrepoint de Clarisse le personnage d'Ève, qui elle au contraire, contrairement à Clarisse, réussit tout, un mariage stable, enfin pour elle tout se passe bien professionnellement, elle va au bout de ses rêves, elle les réalise, contrairement à Clarisse qui les avorte, ses rêves. Et en même temps, au fur et à mesure que le temps passe et qu'elle approche de la soixantaine, Ève s'aperçoit qu'elle ne sait plus s'abandonner. Exactement le contraire de Clarisse. Elle n'abandonne rien, mais elle ne sait plus s'abandonner.
Qu'est-ce que c'est s'abandonner, Catherine?
S'abandonner, ça veut dire pouvoir jouir du moment présent, pouvoir être dans le présent au lieu de se projeter dans le futur et sans cesse se projeter dans une construction du futur. Et Ève, ça devient une forme de souffrance chez elle. Elle est trop dans le contrôle. Et c'est d'ailleurs ce que j'appelle à un moment dans mon roman la maladie moderne.
Vous écrivez, pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité, mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. Voilà, bonne
et
chance.
Et c'est la vision d'Ève. C'est bien sûr la vision d'Ève. Oui, c'est dans le récit d'Ève.
Oui. Allez, les libraires, le Canada, la Suisse et la Belgique ont lu votre ouvrage. Ne faites pas la grimace, Catherine. On commence par qui? Belgique, Suisse, Canada.
La Belgique, allez.
Allons-y en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Bon, bah écoutez, moi, au départ, en fait, je trouvais les deux histoires, je dois bien l'avouer, un peu banales. Mais la plume légère et le génie de Catherine Cusset à nous faire rentrer dans des vies ont fait que, pour finir, je n'ai pas lâché le livre. Et en fait, je dois reconnaître, je me suis assez souvent identifiée.
Bien. La Suisse, Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord?
Alors, un petit peu, j'ai lu ce roman un peu comme l'inventaire de ce qui constitue la féminité dans ses rêves, ses contradictions, et c'est fait de manière très habile avec les deux personnages féminins. Mais moi, ce qui m'a gênée, c'est ce grand paradoxe de la transparence, voire de l'inexistence des personnages masculins, alors qu'ils sont finalement le centre des vies de ces deux femmes. Mmh. Un peu comme dans ces romans « virils », entre guillemets, où les femmes sont des faire-valoir.
Catherine Cusset.
Alors, on a le droit de répondre.
Oui, bien sûr.
D'abord, concernant la banalité, c'est évident, c'est un choix. Hein. C'est ce que vivent ces deux femmes. C'est un peu, pour moi, ce que vit toute femme, et j'ai absolument pas cherché une originalité. Je voulais que toute femme puisse se retrouver dans l'expérience de Clarisse et d'Ève. Et alors, les personnages masculins, eh bien, figurez-vous, c'est peut-être ce qu'il y a de plus clivant dans ce roman. D'abord, c'est pas le sujet de ce livre. Hein. J'ai écrit avant deux romans sur des hommes, qui sont L'autre qu'on adorait et Vie de David Hockney, où j'étais rentrée dans la peau des hommes. Celui-ci, c'est un retour au féminin. Alors, est-ce que les personnages masculins dont tombe amoureuse Clarisse, ce sont pas des personnages vraiment glorieux? C'est une évidence, hein, puisque son histoire, c'est d'être tout le temps abandonné.
Mais ils sont présents quand même. Hein,
ils sont très présents. Ouais. Et François, ce deuxième grand amour, c'est quand même un très beau personnage qui est là et qui sauve son fils quand même, qui était abandonné pour le coup par l'école. Et en même temps, il la quitte.
C'est pas un type très fiable. Hein,
il est pas fiable parce qu'il y a cette
François,
maladie. Parce que, voilà.
Ouais. Il est maniaco-dépressif, hein, on va dire. Voilà. Et donc à un moment, il lui dit, je peux pas rester avec toi, je ne peux pas te faire un enfant, je suis obligée de partir, je suis un lâche en substance et puis je m'en vais.
Et alors quant au mari d'Ève, alors là, moi je suis désolée, pour moi c'est un beau personnage, si vous n'en avez pas l'impression, c'est évident que j'ai dû rater quelque chose, que j'essaierai de faire mieux sur ma prochaine copie, mais ce personnage de Paul, il est l'encre d'Ève, il est toujours là pour elle, il est là quand elle décide d'accoucher dans un taxi à New York parce qu'elle veut garder la naissance de ce deuxième enfant sous
contrôle.
Racontez
pas tout, Catherine, que
c'est... Voilà, mais il a très peur, mais il est toujours là pour elle. Il est l'homme qui est là pour elle.
Je vais juste resituer pour ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que la majorité des auditeurs n'ont pas lu le livre. Il y a donc deux femmes, deux sœurs, Clarisse et Ève. Elles ne se connaissent pas au départ. Clarisse vit des aventures avec des hommes. Ève a un mari, c'est plutôt une vie stable.
Et elle vit à New York.
Et elle vit à New York, voilà. Mais elles sont en souffrance toutes les deux. Bon, on arrête de raconter, promis. Le Canada maintenant avec Mike Viennot. Mike, que pensez-vous de tout ça?
Ben, c'est intéressant parce que le roman se balade entre deux personnages féminins avec parfois certaines longueurs, mais il y a des moments qui sont lumineux, certaines scènes sont écrites avec justesse dans les détails. Et c'est vraiment le récit de deux féminités. Alors ça, c'est intéressant, ça ressort très bien. Le style, la lenteur du récit parfois peuvent décourager certains lecteurs, mais je crois que les passionnés de Cusset vont vraiment y retrouver leurs aises. Pour les autres, il faudra peut-être parfois trouver des repères pour franchir le roman.
C'est vrai, Catherine Cusset, que c'est un peu en longueur ce livre. Il faut savoir que vous avez vécu aux États-Unis assez longtemps et on a cette impression que vous avez intégré la façon d'écrire des auteurs américains. Cette description du quotidien, cette narration aussi des drames et des fatalités de la vie, tout ça en longueur comme une introspection, parce que c'est un peu ça, c'est une introspection,
alors,
non?
Bah écoutez, moi j'ai... Bon, je sais pas quoi vous dire. Le roman faisait 500 pages, je l'ai coupé, il en a 325 déjà, donc c'est vraiment ce que je fais toujours dans mes livres, je coupe énormément. Chacun des chapitres, donc on alterne entre la vie d'Ève et celle de Clarisse, et bien à chaque fois on rentre dans un épisode très précis de leur vie, et c'est très important pour moi de situer dans le temps, dans les lieux, qu'on ait l'impression d'être à New York, à tel moment, un an après le 11 septembre, et donc il faut bien des détails du réel. Je sais pas si c'est une influence des romanciers anglo-saxons, j'ai vraiment besoin, moi, que mes romans soient très précisément dans le réel, et de décrire les sentiments par l'action, par le dialogue.
Mais par ce qui se passe aussi autour d'eux. Et vous avez eu besoin de toutes ces pages, je comprends moi, parce que tout y passe dans ce livre. Vous balayez notre époque. Le 11 septembre à New York, les attentats de Paris au Bataclan, le mouvement MeToo, la pédophilie même abjecte de la littérature, dans une certaine littérature, le coronavirus, bref, tout est là.
Mais parce qu'on vit dans son époque.
Mais oui, bien sûr.
On vit dans son époque. Donc
c'est
pas
une déambulation dans l'époque.
C'est quand mes personnages pensent, évidemment, s'ils pensent à quelque chose, ils vivent dans leur époque. Donc il y a par exemple la pédophilie dans ce roman, il y a une demi-page à un moment où il y a un écrit qui en parle, c'est pas un sujet du roman.
Non, mais vous avez composé comme ça, avec beaucoup d'éléments. C'est peut-être cette impression que disait Mike. Juste une chose, Catherine Cusset, il y a une réflexion très intelligente, très forte sur la douleur. Vous avez cette capacité-là, parce que vous êtes une grande auteure, et vous savez justement pointer comme ça les faiblesses de l'homme, avec un grand H. La douleur ressurgit, le drame de l'abandon réapparaît. Vous dites qu'il y a parfois une structure de l'abandon. On reproduit comme ça dans sa vie, malgré nous, ce que l'on a vécu. Et quand on a été abandonné enfant ou dans sa jeunesse, ça nous poursuit.
Ce roman, comme d'ailleurs la plupart de mes romans, je travaille sur le temps. C'est un roman sur 4 décennies. J'ai toujours des romans qui durent un demi-siècle ou plusieurs décennies, et je cherche toujours à comprendre qu'est-ce que c'est que le mouvement d'une vie. Donc le temps, je le vois comme une ligne verticale avec des strates qui nous constituent, et nous changeons avec le temps. Nous ne sommes pas le même qu'à 18 ans, qu'à 15 ans. Nous changeons, nous nous transformons, et en même temps, il y a quand même quelque chose qui demeure, qui nous structure. J'ai souvent l'impression qu'on est toujours l'enfant qu'on a été à 5 ans.
Mais l'abandon nous poursuit ? Comme si vos personnages,
ben, si on reproduit les choses. Déjà, moi, l'abandon, c'est un thème qui m'obsède un peu. Oui. C'est pour ça que c'est le sujet du roman. J'ai été très marquée par le petit livre de Simone de Beauvoir, petit en taille, pour le coup. Notre ami canadien serait content. La femme rompue, qui est vraiment un très petit roman.
Soyez pas rancunière.
Et qui raconte l'abandon d'une femme par son mari et la destruction de son identité. Et c'est vrai que l'abandon, la rupture, ce sont toujours des réalités, plus que des thèmes qui...
Vous l'avez vécu vous-même, vous, l'abandon? Sans tout raconter de votre vie, mais si ça vous obsède...
J'ai forcément vécu, qui n'a pas de rupture dans sa vie. J'ai forcément vécu des ruptures, des ruptures amoureuses dans ma vie. Mais c'est vraiment quelque chose qui me hante, parce que je sens tellement, de façon tellement aiguë, la destruction que ça peut être pour une femme ou pour un homme, d'être abandonné par l'autre. Le désamour, c'est quelque chose qui me terrifie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet du livre.
Bon, on vous aime ici, Catherine Cousset, vous le savez.
Merci Emmanuel.
Merci Catherine. La définition du bonheur est parue chez Gallimard, un livre donc qui fait débat dans notre équipe, vous l'avez entendu, c'est ça aussi le débat culturel, et c'est bien à vous de vous faire une opinion en achetant et en lisant ce livre. Il est en lice pour le prix Renaudot. À bientôt Catherine. À suivre, le congrès mondial des écrivains de langue française avec l'haïtienne Émilie Prophète depuis Tunis, et puis aussi Yamen Manaï. Avant cela, voici le nouveau titre du groupe créole Delgrès, que l'on soutient dans la librairie francophone avec ces mots-là, Delgrès.
Laissez-moi vivre.
C'était Delgrès avec ces mots-là.
les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et on part tout de suite à Tunis, au Congrès mondial des écrivains de langue française. Bonjour Yamen Manaï.
Bonjour Emmanuel.
Où êtes-vous Yamen? Quelle est l'ambiance en ce moment sur place?
Alors je suis à la Cité de la Culture, donc c'est un bâtiment exceptionnel avec énormément de théâtres, d'auditoriums, d'espaces d'exposition. Il est situé dans le centre-ville de Tunis, à l'avenue Mohamed V. Et alors, on y célèbre la francophonie, on y fait les états généraux du livre en langue française et on enchaîne en fin de semaine avec le congrès des écrivains de langue française.
Bon.
Donc il y a du beau monde, il y a des écrivains, des éditeurs, des journalistes, des gens de la culture, des officiels. Et il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'imaginer un avenir plus radieux pour le livre francophone.
Alors qu'est-ce que vous appelez un avenir plus radieux justement? Parce que, alors vous êtes un écrivain tunisien, lauréat du prix des 5 continents en 2017. Leïla Slimani nous disait la semaine dernière que vous allez réfléchir à des propositions pour envisager de renommer la francophonie. Pensez-vous que le mot francophonie est daté et lourd de sens avec une domination de la France en quelque sorte?
Alors peut-être pour une certaine génération, mais pour moi, je ne le prends pas comme un terme péjoratif, je le prends tel qu'il est. Je le trouve pas choquant, il ne mérite pas le poil, mais je pense que pour d'autres personnes, peut-être qui ont vécu des choses un peu plus anciennes, ça peut en effet les heurter. Ensuite, les discussions qu'on fait, ils ont quand même une dimension, je pense, un peu plus concrète que des effets d'annonce ou de nomenclature. On essaye de voir, par exemple, comment favoriser les coéditions entre les différents pays, comment est-ce que faire en sorte que le livre circule mieux. On parle aussi de l'édition numérique. On parle d'un espace plus ouvert, plus dynamique, sur lequel on a envie de réaliser des actions concrètes. Et les états généraux, c'est l'endroit idéal pour faire des propositions et espérer ensuite que ça suive.
Oui, c'est ça. Effectivement, faire circuler le livre, hein, c'est ça le grand sujet, de permettre à tous les auteurs de la francophonie de pouvoir être lus un peu partout dans l'espace francophone. La Tunisie accueillera aussi le sommet de la francophonie en novembre prochain. Yamen Manaï, ce sera à Djerba. Comment réagissent les Tunisiens en ce moment sur place? Quel est l'impact de ce rayonnement francophone en Tunisie actuellement?
Alors il y a en effet toujours une grande fierté des officiels d'être leader sur ce type d'événement et de prendre la présidence de certaines organisations comme ça, mais ça génère aussi un stress au niveau de l'organisation, il faut être à la hauteur de ses ambitions, donc je pense que c'est très responsabilisant de confier à la Tunisie l'organisation de ça, et je pense que on va s'en donner à cœur joie pour réussir vraiment cet événement.
Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Yamen Manaï, je rappelle que vous êtes prix des 5 continents en 2017, on avait parlé de votre magnifique livre Lama Ardent, et c'est un livre paru aux éditions Elizade, si mes souvenirs sont bons. Et il faut lire ce livre. Merci Yamen.
Merci
bon congrès.
Merci beaucoup Emmanuel.
À très bientôt. On va aller tout de suite dans le centre de Tunis, pas très loin d'ici, rejoindre Emily Prophète qui est aussi sur place. Bonjour Emily.
Bonjour Emmanuel Quérade.
Où êtes-vous? Alors racontez-nous ce que vous voyez, vous.
Eh ben moi, je suis en face de la Cité de la Culture. Je me suis déplacée pour avoir une meilleure connexion Internet.
Oui.
Et de là où je suis, je regarde la Cité de la Culture, très tunisienne comme construction, très moyen-orientale. Et c'est très joli. Donc, il y a une sorte de boule verte qui est soutenue par des pylônes qui est magnifique à regarder.
Bon, et vous participez aussi à ce congrès avec Yamen Manaï, avec plein d'autres auteurs. Vous êtes une auteure haïtienne, Emily Prophète. Invité de ce congrès, on avait fait un entretien ensemble dans Port-au-Prince il y a 3 ans. Vous vous souvenez de ce moment?
Oh ben c'est un moment inoubliable.
Dans Pétionville, hein, c'est à retrouver en ligne sur notre site internet. Vous publiez cette fois Les Villages de Dieu aux éditions québécoises Mémoire d'Encrier. Vous décrivez la violence dans une cité de Port-au-Prince avec plein de personnages. Ils sont tous victimes d'une société déstabilisée, déshumanisée aussi, avec les gangs, les meurtres et les viols. Vous montrez qu'il n'y a pas d'espoir, Emily Prophète.
Oui, ce n'était peut-être pas le but, mais faut croire que j'ai travaillé avec le réel que j'ai autour de moi. Et croyez-moi, la réalité dépasse largement la fiction.
Ah oui, à ce point-là, parce que c'est très dur, hein, ce que vous écrivez. Il y a des phrases comme celle-ci, là, que j'ai relevée. Il y a toujours plus pauvre que le dernier des pauvres. Et ça va très loin, cette violence, cette pauvreté, cette misère.
Ça va très loin et il y a une gangstérisation des quartiers populaires, de jeunes gens désœuvrés qui sont payés par des gens d'argent, qui sont fournis en armes et qui terrorisent leurs compatriotes. Il y a des enlèvements contre rançon, il y a des chantages, il y a une instabilité extraordinaire, une misère, pas d'infrastructure, pas de gouvernement ou presque pas. Le président a été assassiné le 7 juillet dernier. Oui. Donc c'est une situation très très chaotique que nous avons en Haïti aujourd'hui.
En ce moment aux États-Unis, des centaines de migrants haïtiens fuient vers le Mexique par peur d'être renvoyés au pays. Le gouvernement de Joe Biden avait suspendu les expulsions suite au récent séisme, mais la trêve est terminée. Ces haïtiens fuient justement tout ce que vous décrivez dans votre livre, Émilie Prophète.
Oui, il fuit la misère, l'instabilité politique, le manque d'espoir, parce que c'est cela le plus gros problème, le manque de perspective. Les gens, ils savent qu'ils ne vont pas trouver un travail, qu'ils ne vont pas pouvoir se nourrir. Il n'y a pas de politique publique de la santé, pas de politique publique d'éducation, et la situation s'empire de jour en jour. Donc les gens, ils s'en vont, ils vont chercher mieux ailleurs et ça ne se passe pas très bien pour eux.
Il y a des scènes terribles dans votre récit, des bébés jetés dans des poubelles, faute de moyens pour s'en occuper, des chefs de gang éphémères assassinés, l'un d'entre eux mangera le sexe de son concurrent, grillé au barbecue pour asseoir son autorité, et ça marche. La violence n'a aucune limite, vous l'avez vu, enfin, ce sont des histoires vraies que vous racontez, vous imaginez, Émilie, parce qu'à un moment, vraiment, on se demande, quoi.
Oui, ce sont des histoires vraies, mais parce qu'il y a des histoires pareilles qui existent dans l'actualité, dans le quotidien. Et c'est vrai que les chefs de gang finissent toujours par être assassinés par leurs lieutenants qui veulent occuper la place. Donc un membre de gang, un chef de gang, ne vit pas en général au-delà de 20-25 ans. Donc c'est comme ça que ça se passe et je vous promets que c'est plus dur dans la réalité. L'autre jour, j'écoutais la radio, il y avait deux femmes qui pleuraient quand j'allais prendre mon avion pour venir ici en Tunisie. Et il y a deux femmes qui pleuraient, c'est des femmes très pauvres, mais dont les maris ont été enlevés par un gang qui s'appelle les 400 Marozo. Vous imaginez quelqu'un de pauvre qui est sommé de payer 400 000 dollars pour la libération d'un mari qui fait comme travail conduire une moto-taxi dans la ville. Donc les femmes, elles pleuraient, et moi je me suis mise à pleurer aussi. C'est des situations très très exceptionnelles en Haïti.
Bon allez, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre récit, Émilie Prophète. La France, la Belgique et le Canada. On va commencer tout de suite par la France avec Sophie Todescato.
Ah, c'est un livre terrible, mais j'ai eu du mal à avancer dans sa lecture parce qu'il est vraiment sans lumière ni horizon. Et le plus terrible au fond, c'est que même si certains des personnages, et surtout les personnages féminins, sont attachants, la violence et cette misère les enferment dans l'indifférence. Il n'y a pas de révolte possible, pas de fuite. Toute l'histoire de ces femmes raconte vraiment de manière très cruelle l'impasse du pays.
Mike Vienno à Montréal, êtes-vous d'accord avec ça?
Oui, oui, c'est un très beau roman. Certains font faire la comparaison avec Dany Laferrière pour le style et l'évocation du lieu. Moi, j'y vois beaucoup de similitudes avec Émile Olivier, un autre grand auteur haïtien, pour le ton qui joue beaucoup sur la grande simplicité de la quotidienneté. Je trouve que c'est une écriture qui est très soignée, avec le personnage de l'adolescente qui englobe la voix de toutes les femmes du quartier. Je pense même que c'est un roman qui devrait être lu à voix haute pour bien ressentir les multiples dimensions dans les tons et puis les émotions.
L'adolescente, effectivement, Émilie Prophète, il y a Célia, votre personnage principal, qui vit un peu de la prostitution, un peu grâce aux réseaux sociaux aussi. Elle décrit et elle montre les violences sur Internet. Elle alerte le monde et elle constate aussi, dans tout ce marasme, que dans ces cités, il y a aussi de la solidarité, de la générosité. Ça l'étonne, ça ne finit pas de l'étonner, ça.
Ah ben tout à fait, parce que en même temps il y a cette violence qui est rapportée au quotidien, mais il y a des gens qui vivent dans ces cités, des gens qui subissent. On pourrait se dire mais ils sont complices, mais non, ces gens subissent la violence des gangs aussi, et ce sont des gens qui essaient de subsister avec très peu de moyens, qui ont des petits commerces informels, qui rêvent d'avoir des vies différentes.
C'est vrai que les gamins, vous le dites, ils rêvent de devenir chef de gang plus tard.
Ben oui, c'est la seule perspective.
Ah
ce
bon?
Sont des gamins qui ne vont pas à l'école, qui habitent une cité où il n'y a pas d'électricité, qui, les maisons ne sont pas raccordées au service d'eau potable. Il n'y a rien. Mmh. Donc, l'État s'arrête devant la cité. Donc, la seule perspective, c'est de devenir chef de gang pour avoir accès à l'argent et aussi à la parole. Parce que figurez-vous que les chefs de gang, ils font du chantage, ils parlent aux responsables politiques, ils parlent dans les médias, ils ont leur chaîne YouTube, etc. Donc, c'est une façon d'avoir la gloire et ce qui vient avec.
Alors, on va faire un détour du côté de la Belgique avec Nathalie Clairin qui a lu votre ouvrage « Les villages de Dieu ». Nathalie.
Oui, Emmanuel. Bon, ben évidemment, j'ai été tout à fait bouleversée de lire le chaos et la cruauté. Émilie Prophète, vous avez campé des personnages si touchants, si probables, que vous donnez là vraiment un regard de première importance sur la situation sociale à Port-au-Prince. Et malgré tout ce chaos, ce que j'ai ressenti, c'est en fin de compte quand même de l'admiration pour l'image aérienne et digne de la jeune héroïne. Et ce qui donne, pour ma part, une certaine dimension presque spirituelle à votre livre. Bref, ce livre, c'est une bombe et c'est à lire sans discuter.
Voilà, Émilie Prophète, vous avez séduit nos trois libraires.
Ça me fait très plaisir.
Bon, c'est vrai que vous avez écrit ce livre comme un long constat, un long reportage, sans portée de jugement, sans véritable début, sans véritable fin. C'est comme ça une déambulation dans le quotidien des Haïtiens. Et il y a cette réflexion sur l'oubli. On oublie pour avancer, dites-vous. La communauté internationale oublie les Haïtiens. La politique sur place oublie de faire son travail. Oublier pour avancer et oublier surtout pour ne pas devenir fou. C'est ça, le message?
Oui. Il faut, en fait, c'est comme on dit chez nous, et beaucoup de gens le répètent, la phrase n'est pas de moi, c'est 24 heures renouvelables. Mmh. Déjà, on ne sait pas si on ne va pas recevoir une balle, un projectile, si on ne va pas tomber malade et ne pas avoir accès aux soins qu'il faudrait, même minimes, pour rester en vie. Donc, c'est 24 heures renouvelables. Et c'est ce que je voulais faire sentir. Et Célia, elle est très courageuse, elle surplombe tout ce qui se passe, elle est très lucide. Donc, cette jeune héroïne a pris ma place et voilà, je suis bluffée par Célia.
Bon, bravo Émilie Prophète, félicitations pour cet ouvrage. Bon courage à vous aussi, puisque vous vivez en Haïti. Votre roman Les Villages de Dieu est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Je vous souhaite un bon congrès des écrivains à Tunis.
Merci beaucoup Emmanuel Kérad, j'aime beaucoup votre émission.
Eh bien, on aime beaucoup vos livres, ça tombe bien. Catherine Cusset vous a écouté avec grande attention, je pense qu'elle va se précipiter sur votre livre, hein, Catherine.
Ah oui, vraiment, ça m'a tout à fait donné envie de lire.
Voilà. Bon, merci, à bientôt Émilie.
À très bientôt tout le monde, à très bientôt Emmanuel.
À bientôt, à suivre une séquence inattendue et un reportage avec Philippe Jaénada dans la librairie francophone au bord de l'eau. Vous allez découvrir l'une de ses phobies, son nouveau roman fait parler de lui dans toute la presse en ce moment. On écoute PR2B pour l'heure qui chante avec entrain la mélancolie.
170 au compteur, je passerai presque inaperçu. C'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Y'a mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits. Si je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme de deux pas. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Je te cherche dans les draps.
t'appelles mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Même si je ne t'appelle pas mélancolie, je te cherche dans les draps. Tu repars comme on te va, mélancolie. Tu reviendras toutes les nuits. Si je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passera pas. Même si je ne t'appelle pas mélancolie, je te cherche dans les draps.
C'était PR2B avec Mélancolie dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Philippe Jaénada a publié en cette rentrée au printemps des monstres chez Mialet Barreau un gros roman sur un nouveau fait divers cher à l'auteur qui est en lice d'ailleurs pour le prix Goncourt. Pour cette séquence inattendue, nous sommes allés dans un lieu en plein air en Suisse et sur un site a priori interdit au public. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Nous sommes sur un petit port de plaisance, en Suisse. Vous avez choisi cet endroit-là. Décrivez-nous l'endroit, tiens, puisque vous êtes le spécialiste des descriptions, vous.
Ah bon ? Qui vous a dit ça ?
J'ai lu vos livres.
Ah ouais. Donc nous sommes à Morges, au bord du lac Léman, qui est un lac magnifique, il fait beau, la température est idéale pour moi, c'est-à-dire à peu près 21 degrés et demi. Donc nous sommes près de nombreux bateaux rangés sur ce port paisible. Et j'ai choisi cet endroit parce que mon livre, « Au printemps des monstres », parle de pas mal de choses, j'espère, mais parle entre autres et surtout de l'incarcération, de la privation de liberté, que ce soit en milieu carcéral pour Lucien Léger qui a passé 41 ans en prison, ou en milieu psychiatrique pour son épouse. Ils se sont échangés une très nombreuse correspondance, chacun enfermé de son côté. Et ici, nous sommes dans l'exact contraire de ce dont je parle dans le livre, c'est-à-dire des eaux calmes, un horizon dégagé, et puis des bateaux, c'est-à-dire la possibilité par excellence de partir, de bouger.
Il y en a un qui part là justement, il y a un bateau école devant nous.
J'aurais bien besoin de quelques cours, parce que j'ai peur des bateaux, figurez-vous.
C'est vrai, pourquoi ?
Enfin, j'ai pas peur de regarder les bateaux, là, vous voyez, je suis très tranquille. Mais j'ai peur de faire du bateau. Alors, à part un énorme bateau, genre paquebot, c'est pas du luxe, mais c'est simplement que j'ai l'impression que ça ne peut pas couler. Ouais. Quelques passagers du Titanic pourraient me démentir. Mais les petits bateaux, je ne sais pas, j'espère que je suis pas trop trouillard, mais j'adore l'eau, c'est mon élément préféré. Et donc, je ne sais pas, l'eau, j'adore l'eau, mais l'eau me fait peur, la profondeur, le...
Voilà, attendez Philippe, on va aller au bout de la jetée, parce que la porte est ouverte, donc il y a une grande jetée comme ça qui s'avance sur le lac, qui entoure carrément ce petit port de plaisance. On marche sur des sortes de rochers un peu améliorés.
Faites attention Emmanuel, de ne pas tomber dans l'eau, je ne saurais pas quoi faire.
C'est vrai. Alors il y a des signes, tiens, des signes gris, là c'est les jeunes hein, qui sont nés sans doute cette année. Parce que quand ils ont le pelage gris, bah oui, c'est qu'ils sont nés cette année, c'est comme les goélands.
Mais combien avez-vous de qualité, Emmanuel ? C'est pas possible, vous connaissez l'âge des cygnes.
Et là, on a des mouettes, regardez, là, juste devant, des canards en bas.
C'est un reportage animalier sur le port de Morges.
Alors voilà, on marche, on s'avance là, tout au bout, alors c'est un privilège, hein, parce que normalement, il faut un bateau hein, pour arriver là.
Ouais, puis là, je commence à me sentir un peu moins à l'aise que tout à l'heure. On était plus loin des bateaux.
Et plus loin de l'eau, parce que là, on s'approche petit à petit. Pourquoi vous avez peur de l'eau, au final ?
Mais j'ai peur de ce qu'il y a en dessous. Et alors, c'est marrant, parce que... Non, c'est vrai. Et ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans la vie et dans mon écriture, ce sont justement les apparences et ce qu'il y a en dessous. La surface et la profondeur. Mais, pour ce qui est de l'eau, comme justement j'ai... appris. Pardon, je suis essoufflé, on marche comme des dingues.
Non, ça va. On va s'arrêter, regardez, on arrive tout au bout, là.
Comme j'ai appris que la surface était souvent un reflet trompeur, je me dis que sous l'eau, un lac, je sais pas la profondeur d'un lac, mais il doit y avoir bien des choses noires et dangereuses, sombres, menaçantes. Alors j'ai peur, c'est normal.
Alors je pose mon sac, attendez, hop, c'est une petite marche. Voilà, bon là, c'est pas très profond, regardez, on voit les rochers, par transparence.
ça va, là, ça va.
On est quand même au milieu de l'eau, c'est-à-dire on est entouré à droite et à gauche de l'eau.
Mais, oui, à droite, oui.
Comme un bateau fixe.
Ça, c'est l'idéal, un bateau fixe. Et ces bateaux, d'ailleurs, autour de nous me plaisent, parce qu'ils ne bougent pas, donc ils ne risquent pas de sombrer. Mais ils ont quand même en eux la possibilité du départ, du voyage. C'est dans leur nature. Pour moi, ils sont très bien comme ça. Rangés, bien sages. Et surtout, je ne suis pas dessus. Donc je me sens finalement, ça y est, je me sens bien, on peut y aller.
On va parler de votre livre Au printemps des monstres, donc 750 pages, Philippe Jaénada, autour de l'affaire, effectivement, de Lucien Léger. Pourquoi autant de pages, Philippe ?
Alors, au début, je ne pensais pas. J'avais promis à mon éditeur, Bernard Barreau, un livre de 400 pages. Je m'étais laissé une petite marge, j'avais dit, allez, 450 max, parce que je me connais. Et puis, quand j'ai commencé mes recherches, qui ont duré quand même près de 4 ans, 3 ans et demi de documentation et d'écriture, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était une affaire non seulement extrêmement complexe, trouble, floue. Le seul moyen d'en parler, c'était d'aller absolument dans tous les coins, les recoins, les impasses, les fausses pistes, d'aller partout, de creuser dans les moindres détails. C'est dans la nature, dans l'essence d'un livre qui parle de cette affaire que d'être énorme, sans doute trop peut-être. Peut-être le lecteur ou la lectrice à certains moments va froncer les sourcils et me jeter quelques ondes menaçantes.
Il ne faut pas le lire d'un coup, quoi.
Mais c'était soit ça, soit rien, en fait. C'est-à-dire que si j'avais voulu tenir ma promesse de 450 pages, ce n'était pas la peine de faire un livre sur cette affaire, il aurait été raté.
Bon. Alors, effectivement, cette histoire, le petit Luc Taron, 11 ans, retrouvé mort dans un bois, avec un type qui se désigne, un certain Lucien Léger, qui va devenir le plus ancien prisonnier de France, 42 ans de prison, imaginez-vous. Et il dira aux parents une phrase horrible qui a retenu votre attention, « Ne vous plaignez pas trop, car moi j'ai vu ses yeux implorants ». Il a laissé entendre à tout le monde qu'il avait tué ce gamin, sauf que vous, vous êtes convaincu de son innocence. C'est encore plus monstrueux, finalement.
Ouais, la personne qui a dit aux parents « ne vous plaignez pas trop », c'est pas vraiment Lucien Léger, c'est Lucien Léger, mais c'est sous son masque de l'étrangleur. Il a créé un personnage et pendant 40 jours, un petit avion passe au-dessus de nos têtes, pendant 40 jours...
C'est bien, vous décrivez tout, hein. C'est comme dans les livres.
Vous, c'est les animaux, moi c'est les bateaux et les avions. Pendant 40 jours, évidemment on ne sait pas qui est cet homme, ce corbeau ignoble, anonyme, l'étrangleur, et il a été vraiment odieux. Mais Lucien Léger n'était pas comme ça en réalité, on l'a attrapé au bout du compte. Lucien Léger était plutôt, et il a écrit parmi tous les messages odieux, vulgaires, laids, agressifs, tout ce qu'on veut, il y a une phrase poétique. Un journal avait dit « il faut attraper ce monstre », et lui, il a répondu dans une lettre anonyme « l'étrangleur n'est pas un monstre, je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres », d'où le titre du livre. Et en fait, l'étrangleur et Lucien Léger, même si c'est Lucien Léger qui s'est glissé dans le personnage de l'étrangleur, sont deux personnalités complètement différentes, pour ne pas dire opposées. Et je pense qu'il est innocent, je suis sûr qu'il est innocent.
Mais pourquoi il a fait ça alors? Pour attirer l'attention, comme vous le dites, à un moment, un peu pour manipuler les médias aussi? Pour dire, voyez, moi, le pauvre type que je suis, je peux diriger tous les micros, toutes les caméras vers moi?
Il y a un peu de ça. Lucien Léger était une personne, quand il est arrêté, il a 27 ans, qui est extrêmement cultivé, très intelligent, etc., mais qui n'a aucun charisme, aucune influence sur son entourage proche, même dans un rayon de 3 mètres, aucun pouvoir. Et tout d'un coup, sous sa personnalité de l'étrangleur, il manipule comme des marionnettes tous les médias de France et même à l'étranger, les hommes politiques. Il s'adresse à Maurice Papon, qui est
le
préfet de Paris à l'époque, en l'appelant Papon la matraque, en lui disant « pauvre con ». Il écrit à Léon Zitrone « mon vieux Léon, ce soir j'espère que tu vas parler de moi ». Enfin tout d'un coup, d'un jour à l'autre... Alors, c'est sans doute une des raisons qui l'ont poussé à continuer dans cette spirale de folie complète des messages de l'étrangleur. Mais il y a autre chose, lui, toute sa vie a crié son innocence, toute sa vie jusqu'à sa mort. Et il racontait une histoire qui peut paraître complètement délirante, qui est sans doute mensongère sous certains aspects. Il dit que c'est pour rendre service à un ami que la police aurait trop facilement trouvé parce que cet ami connaissait les parents du petit garçon. Cet ami lui a demandé, lui qui était complètement étranger à tout ça, de se dénoncer. Il lui a dit « tu risques rien, personne ne te connaît, tu écris une lettre ou deux anonymes pour dire que c'est toi, je te donne quelques détails ». Sauf que Lucien Léger, à cause de cette histoire de tout d'un coup de surpuissance qu'il a découverte, il n'a pas écrit une lettre ou deux, mais il est rentré dans un processus à 27 ans qui l'a en fin de compte entraîné et fait sombrer toute sa vie jusqu'en 2008, l'année de sa mort.
Bon allez, on va se diriger vers
le centre de la ville. On va quitter cette jetée parce que je vous sens tanguer un petit peu là, Philippe. Et moi, je suis tout au bord. Hein. J'ai failli tomber. Vous me dites rien en fait. J'ai le pied quasiment.
Non, j'espérais peut-être en scoop radiophonique.
Oui, bah avec le micro dans l'eau, c'était cuit. Hein. Bon, il y a un bateau qui rentre. Tiens, justement, on va vous mettre dessus, Philippe Génada. Vous savez nager ou pas?
Bien sûr, je sais nager. J'adore l'eau. Tant que c'est pas trop profond, 2-3 mètres, 3,50 mètres, ça va. Je sais que je vais pas couler dans 3,50 mètres. Non, j'adore l'eau en plus, vraiment, sincèrement.
J'ai failli tomber. Quelle est cette passion? D'où elle vient cette passion, Philippe Génada, pour les faits divers? Parce que c'est pas le premier livre que vous faites là-dessus, hein. La serpe, la petite femelle, aujourd'hui celui-ci. Il y a une passion pour les faits divers?
Alors, moi j'ai l'impression d'être deux personnes, un homme et un écrivain. L'homme, oui, il s'intéresse beaucoup aux faits divers. Disons, c'est une sorte de curiosité qui peut être considérée comme un peu malsaine parfois d'ailleurs, mais voilà, j'aime ça. J'aime aussi les faits divers de fiction, c'est-à-dire les romans policiers. J'en lis pas mal, j'en lis beaucoup. Et...
C'est dur à passer, hein, parce que là on est en pente. Alors je vous explique, parce que c'est vraiment une pente, et on glisse comme ça vers le lac. Il y en a un des deux qui va tomber au bout du compte. Et on a des bornes en plus pour alimenter les bateaux en électricité qui gênent le passage. Bref.
Et donc l'écrivain, lui, ce qu'il veut, c'est écrire de bons livres, enfin le mieux qu'il peut. Et le fait divers, quand il y a eu une enquête, une instruction, un procès, j'ai des centaines de petits assistants qui sont des policiers, des gendarmes, des juges d'instruction qui ont mené l'enquête. Oui, faisons une petite pause. Et donc, il y a un dossier qui est une mine d'or pour un auteur. Vraiment, au Printemps des Monstres, le dossier fait presque 30 000 pages de témoignages de tous les gens qui ont approché la victime ou le coupable, enfin le suspect. Et donc, pour moi, c'est une matière première extraordinaire. Je pourrais me passionner, disons, pour le sport, mais je ne trouverais pas sur Pelé ou Platini, disons, pour le foot, le millième de cette documentation. Donc, tout d'un coup, ça coïncide. Mes deux moitiés, ouais. L'homme et l'auteur, se...
Et vous mélangez en plus, parce que vous racontez vos histoires à vous, vos problèmes de santé, cette fois. Vous vous en amusez, c'est presque comme si vous exorcisiez des choses. Vous êtes un hypochondriaque aussi?
Je ne sais pas si je suis hypochondriaque, parce que je crois que les hypochondriaques se créent des problèmes, alors que moi, non, moi, j'ai de vrais problèmes, Emmanuel. Non, ça va mieux, mais j'aurais dû faire attention dans le livre, parce que les gens qui n'en sont qu'à la page 200 ou 300, mais que je connais, m'écrivent des mails, ma famille ou quoi, me disent « ça va, je viens d'apprendre que tu avais un kyste énorme dans la tête ». Bon, tout ça est arrangé. Non, mais c'est parce que moi, j'aime les livres ou toutes les œuvres d'art, qui sont un peu des miroirs de la vie et donc, en premier lieu, de leur auteur. Donc, comme je disais, moi, je me sens un peu double, et donc je mets mes deux côtés dans le livre. Et puis, c'est aussi, honnêtement, c'est aussi que je raconte des histoires extrêmement noires, lugubres et tristes, désespérantes même.
Donc, faut alléger avec vos problèmes de santé, c'est ça?
Exactement. J'ai pas envie
ça
de.
Ça n'allège pas tellement ça.
Si, mais enfin, ça va.
Sauf que vous êtes drôle, ouais.
Ouais, ce sont de petites misères par rapport à la mort d'un enfant ou 41 ans de détention. Ouais.
On va passer le petit portail bleu là qui est devant nous. Bon, la prochaine fois, on fera un tour en bateau.
Voilà, allez, on s'engage à ça.
Je passe avant. Hop. Parfait.
Ça y est, on revient à la civilisation.
Un tour en bateau, on s'engage à ça vraiment?
Ouais, allez, prochain livre, on prend un bateau, pas un trop petit, hein, Emmanuel.
D'accord.
Un bon bateau, quoi.
Un beau bateau, c'est-à-dire
un bateau solide. Un bateau
10 mètres, quoi.
Un bateau qui ne coule pas. Je ne sais pas, on fera venir un expert avant, on verra.
Bon, merci beaucoup Philippe Génada. Au Printemps des Monstres est paru chez Mialet Barreau. 750 pages passionnantes. Merci beaucoup Philippe.
Merci à vous Emmanuel, et donc à bientôt sur l'eau.
Exactement, allez.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et vous noterez d'ailleurs que pour les oiseaux, on ne dit pas pelage, mais plumage. Voilà, mea culpa. On passe à la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec un coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Oui, c'est un coup de gueule contre le lobbying. Quel vilain mot. Alors, depuis des années, les plateformes de vente en ligne contournent la loi Lang sur le prix du livre en bradant les frais de port quand elles expédient des livres à domicile. Il s'agit vraiment d'une pratique déloyale, d'une distorsion de concurrence qui est avérée. Et en juin dernier, une proposition de loi a enfin essayé de s'y attaquer. Il se trouve que cette loi est sur le point d'être examinée par les députés ici en France. Et comme par hasard, on apprend ces jours-ci qu'Amazon déploie un lobbying très intense pour défendre son avantage. Il faut donc que libraires se mobilisent avec peut-être l'aide de leurs clients qui, s'ils souhaitent encore nous aider, peuvent le faire. Par exemple, en écrivant à leurs députés avant le 28 septembre.
Bien sûr, il faut faire ça. Et je rappelle à tout le monde qu'il faut acheter vos livres dans les librairies
entreprises indépendantes et pas sur ces plateformes dont je tairai le nom parce qu'après on a des problèmes. Mais ils se reconnaissent trop facilement. Voilà. Merci Sophie. Au Canada, pardon, au Canada, Mike Viennot a un coup de cœur.
Oui, c'en est un vrai. C'est un roman jeunesse qui s'appelle « Je ne suis pas une outarde » de Sébastien Gagnon chez Bayard Canada. Écoutez, c'est un roman avec un ton franc, un style qui est cru. Le récit est enlevant, c'est intelligent, où la jeune narratrice, Sierra, s'adresse à son lecteur, à sa lectrice, pour lui raconter avec une langue très naturelle, un vocabulaire crédible de jeune en panique, tous les événements dramatiques qui lui sont arrivés. Le rythme est impeccable. J'ai adoré cette lecture. Un souffle unique. C'est un récit très original.
Je ne suis pas une outarde de Sébastien Gagnon chez Bayard Canada. Merci Mike pour ce conseil. Un coup de cœur aussi en Belgique, Nathalie Clairin.
Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je voudrais souligner, donc, dans un tout, tout gros coup de cœur, la sortie en poche, en folio plus exactement, du livre de Anne Serre, qui est intitulé Au cœur d'un été tout en or. Ah, alors, elle avait eu le prix Goncourt de la nouvelle.
Oui, elle était venue pour ça, d'ailleurs. On avait fait un reportage, entretien, au parc du Luxembourg, je crois, avec Anne Serre.
Ah, parfait. Eh bien, donc,
vous irez écouter.
Voilà. Et c'est une trentaine de courtes histoires sur des gens tout à fait comme vous et moi. Mais je trouve que ça ouvre avec beaucoup d'intelligence une fenêtre sur nos jardins secrets, sur la pluralité de notre être, sur ce que j'aime beaucoup, nos paradoxes. Moi, j'ai souvent des clients qui disent « Oh, j'ai encore de gros livres à lire, non terminés chez moi. » Eh bien, en voilà un que vous lirez d'une traite. Donc foncez si vous n'avez pas encore eu l'occasion, au cœur d'un été tout en or.
Dan Serre, aux éditions Folio, donc en poche. Merci beaucoup Nathalie. En Suisse, Dominique Bressoux, un coup de gueule pour conclure. Décidément, hein, en ce moment. À la télé aussi, vous avez fait un coup de gueule, non? C'était un coup de cœur? Je ne sais plus.
Non, c'était un coup de cœur.
Pardon. Allez-y, Jérémy.
Non, là, ce qui me fait râler, c'est que si les publicitaires en mal d'imagination peuvent utiliser une citation célèbre pour vendre leurs produits divers et variés sans signaler l'auteur, ce serait quand même souvent la moindre des choses, même en bas d'une affiche, en tout petit. Par exemple, quand je vous dis « l'essentiel est invisible pour les yeux », quelle image vous vient à l'esprit? Alors je vous dis, en France, c'est un parfum, en Suisse, c'est une saucisse. Mais si je rajoute « on ne voit bien qu'avec le cœur », c'est un extrait du « Petit prince » de Saint-Exupéry.
Oui, et ?
Et j'aimerais bien que ce soit cité, qui est le nom de l'auteur.
Ah oui, d'accord. Quand on fait une référence, il faut citer l'auteur, c'est ça?
Ben, c'est un minimum quand même.
Oui, c'est vrai. Après, ça tombe dans le domaine public, hein, Saint-Exupéry.
Voilà. Oui, absolument. Oui. Non, mais ils ont le droit de ne pas le citer. Oui. Mais je trouve que ce serait le minimum.
Voilà, enfin, d'accord. Ça y est, voilà. J'ai compris votre coup de gueule.
Ce serait correct.
C'est vrai. La correction avant tout. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tous les quatre d'être intervenus tout au long de cette émission. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'extrait d'un titre populaire de la chanteuse guyanaise Saïna Manotte.
Le soleil nous colore la peau, on a la fierté pour drapeau. Ici les femmes portent le monde, elles aiment, elles vivent chaque seconde. On parle créole à la récré, les mots sont fleuris, sont sucrés. Mamie habille dans ta plie, compte tes rêves qu'on peut oublier. Mamie habille dans ta plie, compte des rêves qu'on peut oublier. Entendons ces merveilles. Et si les ruelles sont étroites, et notre tendresse peut-être maladroite, mais nos cœurs, nos voix sont sincères, comme notre ardeur est solaire. Mais nos cœurs, nos voix sont sincères, comme notre ardeur est solaire.
C'était le son de la Guyane avec Petit Pays de Saïna Manotte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince avec Florian Dorimini. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de l'RTS, de l'RTBF et de Radio-Canada. Événement la semaine prochaine avec un double entretien à Nice, ville qui vient d'être classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la première fois et en exclusivité, le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Le Clézio et l'auteur à succès Marc Lévy vous racontent leurs souvenirs culinaires à Nice, où ils ont vécu une partie de leur vie à ne pas manquer. Nous serons aussi avec Agnès Desartes et Vinciane Mochler. Bon week-end et bonne semaine à tous. À bientôt, salut.